Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy.
Et je suis Léa Schiavo. Bienvenue dans le 4e épisode.
La vérité se cache-t-elle dans les bouquins? Peut-on découvrir le monde au travers des livres?
Pour ce 4e épisode de La Vagabonde, destination l'Italie. Quand on entend parler de l'Italie, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ces images toutes faites. Celles que l'on retrouve sur les affiches vendues dans les kiosques des coins de rue de Rome. Par exemple, Audrey Hepburn sur le scooter de Vacanze Romane, la fontaine de Trevi et Anita de la Dolce Vita, ou bien la petite Alfa, ou peut-être est-ce une Fiat, je ne sais plus, du Fanfaron de Dino Risi. Alors tout ça, ce sont des images un peu surfaites, comme la part de pizza dans un restaurant au bord de la mer, le tumulte des scooters, des klaxons et des injures en napolitain sous le soleil écrasant de la Campanie, ou le boss de la mafia au milieu de son clan en Sicile. Ces images font rêver, fantasmer, et à raison car la plupart ont déjà existé et existent encore. Mais bien évidemment, le bel paese, même s'il est bien nommé, est bien plus complexe que cela, et sous certains aspects, cela ne va pas en s'arrangeant. Quoi de mieux alors pour découvrir un pays que de le faire à travers ses autrices et ses auteurs?
Pour ce 4e épisode, nous avons décidé de le faire avec les romans de 4 autrices. Ce sont comme des photographies de ce que c'est être une femme en Italie, une femme artiste, une femme qui lutte, une femme qui enquête, une femme qui aime ou qui déteste. Grâce à leurs textes, on a vu le toucher d'un peu plus près, de manière un petit peu plus sensible, cette Italie qu'elles décrivent, de Bologne à la côte amalfitaine, en passant par Rome évidemment, et d'autres régions qui ont toutes finalement leur ambiance propre. L'Italie est multiple, l'union de tant de zones différentes qui ont leur parler, leur son, leur couleur. Chaque autrice en parle à sa manière et convie des personnages qui incarnent, tout en nuances, ces différences. Découvrir ces livres permet de bousculer toutes ces images qu'on peut avoir en tête, qui sont en fait des fantasmes projetés par un qui ne connaît pas le pays. Et donc, Léa malade.
Oui, Marine. Oui, je tiens à préciser que je suis malade, donc mes excuses anticipées.
Léa,
si je suis enrouée.
Qu'avons-nous dans la vagabouque aujourd'hui?
Eh bien, je suis ravie que tu me le demandes. Superbe sélection, cette fois-ci. On démarre avec Simonetta Greggio et son livre « Les nouveaux monstres ». Qui est en fait le deuxième tome d'une fresque sur l'Italie. Le premier tome était Dolce Vita, qui concernait toute une période de 1953 à 1978, qui donc se terminait sur l'assassinat d'Aldo Moro. Et pour Les Nouveaux Monstres, du coup, on découvre un récit qui est en fait entre reportage et fiction, et qui couvre 35 ans d'histoire de 1978 à 2014, date de publication du livre. Et il retrace entre autres l'histoire d'Aria Valfonda, qui est donc journaliste et qui enquête sur les pans les plus sombres de l'histoire de son pays, entre mafia, mensonges d'État et manipulation au sein du Vatican. Puis on va profiter de cette fenêtre ouverte sur l'histoire de la mafia pour parler de Letizia Battaglia, qui est une photojournaliste sicilienne et une des premières et des seules à avoir immortalisé avec son appareil photo les crimes commis par Cosa Nostra à Palerme.
Après, pour rester sur l'histoire avec un grand H, nous avons envie de vous parler de Francesca Malandri, qui est une autrice contemporaine italienne, et de son livre qui s'appelle « Tous sauf moi », paru en 2017 en Italie sous le titre de « Sangue giusto ». Alors par contre, moi je ne parle pas italien, donc moi ça. Mon accent il sera beaucoup moins
c'était
sympa.
C'était parfait.
Oh merci. Mais il est paru aux éditions Gallimard en 2019 pour la traduction française. C'est une fresque très documentée sur l'Italie des années 2010, mise en miroir avec l'Italie fasciste de la conquête éthiopienne de 1936 à 1941, à travers l'histoire d'une famille qui découvre son lien avec l'Éthiopie, avec l'apparition d'un neveu ayant fui le pays.
Et puis on va parler de La vie parfaite de Sylvia Avallon, qui est une autrice contemporaine. Il a été publié en 2017 en Italie et en 2018 pour sa traduction française chez Liana Levi-Piccolo. Dans ce livre, on découvre les histoires croisées d'Adèle et de Dora, l'une dans une cité du Bologne périphérique tombe enceinte à 17 ans et l'autre enseigne au lycée classique. Elle veut un enfant sans succès depuis des années.
Et dernier bouquin de notre sélection, Goliarda Sapienza, Rendez-vous à Positano, qui est un récit presque autobiographique de la rencontre de Goliarda Sapienza avec une femme qui s'appelle Erika, que l'on surnomme la princesse. Ça se passe dans un décor un peu idyllique du Positano des années 50-60. Il y a une amitié, c'est presque une relation amoureuse qui se noue entre ces deux femmes aux origines parfaitement opposées. L'une est héritière d'une noble famille, l'autre est cinéaste engagée et militante socialiste.
Alors, Simonetta Greggio, elle est née déjà dans la province de Padoue, donc elle est italienne et elle y a fait des études de lettres. Puis en fait, elle est arrivée à Paris en 1981 où elle a été journaliste pendant plusieurs années. Elle a collaboré avec des magazines divers, par exemple Télérama ou La Repubblica, justement, magazine italien. On peut la considérer donc comme un écrivain français, parce qu'en fait, c'est en français qu'elle rédige ses textes. Et d'ailleurs, elle dit d'elle-même dans une masterclass donnée à France Culture, on va d'ailleurs vous donner le lien puisque c'était passionnant, elle se qualifie comme un écrivain français, mais comme une femme italienne. D'ailleurs, au passage, elle fait partie de ces femmes qui ne veulent pas qu'on parle d'elle comme d'une écrivaine, mais comme comme d'un écrivain, à l'instar d'ailleurs de son modèle qui est l'écrivain, donc Elsa Morante. Greggio, quand elle s'exprime sur sa condition d'écrivain, elle donne beaucoup de crédit à sa mère. Elle y fait beaucoup référence, et de même qu'Elsa Morante, d'ailleurs, qui a beaucoup exploré ce sujet. Elle évoque, entre guillemets, une poudre magique, qui est une expression qu'elle reprend d'Elsa Morante pour parler de ce que lui a transmis sa mère, c'est-à-dire un savoir, une envie de lire et d'écrire. Elle ajoute aussi que sa mère a eu envie qu'elle fasse tout ce qu'elle n'avait pas fait, c'est-à-dire qu'elle a eu envie qu'elle soit libre, qu'elle soit écrivain, qu'éventuellement elle ne fasse pas d'enfant. Donc voilà comment est né en fait l'écrivain Simonetta Greggio. Le livre dont on va vous parler aujourd'hui, Les Nouveaux Monstres, a donc été publié en 2014 chez Stock. C'est le deuxième volet de Dolce Vita, comme je le disais plus tôt, qui est un premier livre dans lequel elle explorait historiquement les années de 50 aux années 70. Les Nouveaux Monstres, lui, se présentent comme une suite, puisqu'il retrace les années des 70 aux années 2010, plus précisément 2014. Donc, on y retrouve des événements majeurs de l'histoire d'Italie, avec entre autres l'histoire des Brigades Rouges, l'opération Main Propre dans les années 90, le maxi-procès de Falcone et Borsellino qui a débuté en 86. On y reviendra plus tard. Et l'ascension de Silvio Berlusconi jusqu'en 2013.
Et pour dire deux mots de l'histoire, en gros, Les Nouveaux Monstres, ça mêle les récits intimes de deux personnages, Aria Valfonda, qui est une héritière d'une grande famille, et de Don Saverio, prêtre jésuite, proche de la famille Valfonda, homosexuel, avec un passé un peu trouble. Ça mêle ça et reportage journalistique mené par Aria, dont le but est de comprendre les rouages de l'Italie contemporaine, de dresser le portrait des morts, des événements, pour comprendre et relater ce Gioco Grande, ce grand jeu, pour reprendre les mots du juge Falcone. Pourquoi tu rigoles?
Non, j'apprécie l'accent, c'est tout.
J'essaye. Mais oui, donc la mafia, clairement, est au cœur de l'entreprise, car elle est partout, en fait, dans l'histoire de l'Italie contemporaine. Pour nous, les articles qu'Aria a écrits, on les a un peu vus comme une parole prise par Simonetta Greggio, elle-même pour aborder ces questions houleuses. Et par houleuse, en réalité, c'est même presque des questions dangereuses en Italie, tant la mafia est encore très largement impliquée dans l'histoire du pays. C'est un peu partout.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, pour le coup, on tombe de révélation en révélation, même si on connaît à peu près le contexte italien. On a quand même quelques chocs quand on lit le livre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour donner un peu de respiration d'ailleurs à ce récit, ou parfois qui peut se révéler très très choquant par certaines révélations qu'elle y fait, on suit en fait les échanges entre Aria et Don Saverio, parce que lui détient en fait un secret de famille qu'Aria cherche obstinément à découvrir, qui est d'ailleurs intimement lié aussi à l'histoire de l'Italie elle-même. Et du coup, ça donne une vraie touche de romanesque au récit. Ce qu'on peut noter aussi sur ce livre, c'est qu'il a une écriture très scénaristique. Les dialogues et les descriptions sont très cinématographiques. D'ailleurs, on peut remarquer que le titre du livre est tiré d'un film de Dino Risi et Ettore Scola et Mario Monicelli, qui lui s'appelait effectivement Les Nouveaux Monstres. Et dans ce film, ils mettent en scène en fait l'évolution d'une société italienne dans des situations immorales. Donc on voit bien le clin d'œil qu'a fait Greggio par rapport au titre de son livre. Et c'est vrai que le cinéma a carrément une place prépondérante dans ses écrits, puisqu'on le remarque aussi dans le volume précédent qui s'appelle donc Dolce Vita, comme le film de Fellini.
Ouais, et puis elle parle beaucoup, beaucoup même d'histoire d'acteurs, et elle revient un petit peu sur tout ça.
Il y a tout un passage sur Ornella Muti, par exemple.
Mais moi, pour le coup, sur ce livre, même si, comme tu dis, l'histoire qui donne un aspect très romanesque au livre, c'est intéressant tout ça, mais en réalité, ce qui accroche le plus, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce sont les articles d'Aria et ce qu'elle dévoile de l'histoire italienne, de cette transaction État-mafia, qu'on comprend très bien quand on arrive à la fin du bouquin. Quand on parlait en introduction de tous les clichés que nous avons en tant que touristes, notamment sur ce pays-là, on referme Les Nouveaux Monstres avec une aigreur au fond du ventre, quelque chose de terriblement violent. On a la sensation d'avoir lu l'histoire d'une guerre sourde, une guerre insoupçonnée, quelque chose qui, pendant les années 80, se déroulait alors qu'on n'en avait pas réellement conscience, en fait. Et elle écrit « Les gens pensent que la mafia, c'est le parrain, Marlon Brando ou James Gandolfini, des types fascinants, pourvus d'une certaine dignité et du sens de l'honneur, qui octroient des faveurs à la familia au cours d'un baptême ou d'un mariage kitschissime. Il est juste que Cosa Nostra est finalement une entreprise comme une autre. » Alors qu'en réalité, cela s'appelle la corruption, la gangrène de la société civile, cela s'appelle aussi mafia, c'est un genre de vol à main armée, invisible et insoupçonnable. Pour la démasquer, il faut penser, réfléchir, tirer des conclusions.
Ouais, et effectivement, c'est les termes invisibles et insoupçonnables du coup qu'il faut retenir, parce qu'on est bien loin de toutes ces images, entre guillemets, de cartes postales qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'en quelques mots, par le biais de tous ces articles qui sont insérés au fur et à mesure du récit, Aria, en fait, détricote donc les éléments... ce dont tu parlais du Gioco Grande qui... Ah. Donc là, on a les aléas du direct, le chat qui miaule.
Il est pas content.
Notre premier assistant. En fait, oui, elle nous parle de toutes ces accointances qu'il peut y avoir donc, entre État, mafia, Église, donc une implication même dans les plus hautes sphères du pays, et de ses répercussions sur la société italienne. Donc en fait, elle convoque des faits historiques, des anecdotes, des faits divers qui tous, en fait, à un moment donné... pointe dans la même direction. Elle nous parle, par exemple, de ce tueur en série qui s'appelait le monstre de Florence, qui a sévi dans les années 70-80 en Toscane, qui visiblement pouvait impliquer la mafia, justement.
Et dans le genre, d'ailleurs, de description terrible, ce moment-là, moi, j'étais...
Ça, c'est terrible. Ouais, on était pas loin d'American Psycho.
Ah ouais, horrible.
Elle nous parle aussi, d'ailleurs, du tremblement de terre, pour des faits un peu plus récents, elle nous parle aussi du tremblement de terre de L'Aquila, qui a eu lieu en 2010, et de comment, évidemment, la situation a été gérée par Berlusconi et son entourage. Elle nous parle aussi donc, du maxi-procès de l'époque de Falcone et Borsellino à Palerme, dans les années donc, 80, de l'attentat de Bologne. Bref, elle convoque plein d'événements différents pour démontrer un seul et même schéma, quoi, qui est donc ce lien entre État-mafia.
En fait, en gros, elle fait l'état de la corrélation de toutes les horreurs italiennes des années 80. Donc, il n'y a pas un État et la mafia et l'Église, tout est lié, tous se protègent, tous utilisent l'argent des uns des autres pour arriver à ses propres fins. C'est le système entier qui est défaillant. Et la guerre, elle se fait entre ceux qui croient en la justice et les autres. Aria, pour le coup, elle, qui est un peu une représentante aussi de la jeunesse italienne, a foi en la justice. Elle dit que l'État et la mafia ont des intérêts communs. Ça, c'est quand elle parle de la mort notamment du juge Falcone, que l'État, pour le coup, en fait, était bien content en fait, de voir ce juge-là mort, car il était trop vif d'esprit, trop intelligent. La transaction État-mafia, qui est une communication, une négociation à la manière de deux associés, en fait, un peu entre les deux, que Falcone et Borsellino ne constituaient un danger pour ceux qui, au sein de l'État, craignaient leur propre fin. Donc en gros, ces hommes-là sont morts car finalement, ils avaient trop compris.
Ouais.
Puis ils étaient juste allés trop loin dans leur analyse. Il y a une petite phrase qu'elle a dit qui m'a fait sourire et en même
et
temps que j'ai...
Rire jaune.
Ouais, très très jaune. Elle disait que les sols des salles de bain sont très glissants en Italie à cette époque. En gros, il y a eu pas mal de morts
d'accidents
retrouvés. Oui, tiens.
Gros accident.
Oh oui, un coin de baignoire.
Moi, ce que j'ai... Enfin, le livre s'ouvre sur une anecdote qui, selon moi, représente à elle seule tout ce qui va être démontré dans le bouquin. C'est-à-dire une situation scandaleuse qui est un mélange, en fait, de dilapidation du patrimoine et de clientélisme. C'est une anecdote qui mène à quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout, d'ailleurs, et qui montre que même les gens qui se pensent en dehors de la corruption n'y échappent pas, finalement. On s'aperçoit que la mafia s'infiltre partout. Et en fait, c'est un épisode sur la bibliothèque de Naples qui s'appelle la Girolamini, qui renferme des ouvrages qui sont même antérieurs à l'ouverture de la bibliothèque, qui est de 1586, donc un patrimoine inestimable. Et en fait, on découvre, je raconte dans les grandes lignes, on découvre que le directeur de la bibliothèque écoule les ouvrages à son propre compte. On découvre que la bibliothèque est dans un état lamentable, que les livres ne sont pas bien du tout conservés et en fait, il les vend petit à petit aux quatre coins du monde. Et en fait, on se rend compte que cet homme, qui est censé être légitime, parce qu'il a soi-disant fait de hautes études, il a une ascendance aristocratique, Lui est en fait un escroc et il est placé à ce poste par un proche de Berlusconi. Proche qu'on peut même finalement accuser de liens très forts avec la mafia, puisque en fait c'est un nom qui revient régulièrement dans le livre. Voilà, donc c'est toujours de plus en plus scandaleux au fil des pages.
Mais du coup, j'en profite pour parler juste rapidement, mais c'est pareil, ça c'est une anecdote qui arrive très très rapidement dans le bouquin, ouais. C'est sur Berlusconi justement et son lien en fait hyper direct avec la mafia, mais presque ça c'est dans les 50 premières pages. Ouais. Il y a un truc où en fait où elle nous explique que en gros, dans sa jeunesse, dans sa début de carrière, Berlusconi a fait construire une banlieue à Milan. Mm-hmm. En fait, avec tout un, bah, c'est les premiers, enfin les premiers sièges de ses télévisions notamment étaient là-bas, etc.
Ah oui.
Et en fait, que tout ça, ça a été financé par une banque de Milan qui appartenait à son père et qui en fait servait à, enfin cette banque-là servait à blanchir l'argent de la mafia.
Ouais,
donc en fait ça
plus.
c'est les 50 premières pages et en fait direct d'emblée enfin c'est très très clair.
Ça donne le ton.
Ouais voilà, ça donne le ton. Enfin Berlusconi est de fait en business avec la mafia, mais presque de manière complètement ouverte. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens en Italie qui ne sont pas au courant de cette affaire-là, en fait.
Oui, c'est ça, en fait. Mm. À quel point les gens sont au courant et, et savoir ce qu'ils en pensent, finalement.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vrai qu'on se demande comment on peut réagir en tant que population quand on voit... Bon, après, on prend l'exemple de l'Italie, mais on sait bien que dans tout un tas de pays, potentiellement, certaines choses peuvent se passer. Mais pour reprendre une citation un peu drôle, disons, du livre, qui est cette fois-ci « Tout sauf moi » de Francesca Melandri.
Dont on vous parlera après.
Voilà, exactement. Ouais. Elle dit « On passe notre temps à se hurler dessus, mais on n'a jamais chassé un seul homme de pouvoir indigne à coup de révolution. » Et je crois qu'elle dit ça, le personnage dit ça quand elle est bloquée dans les embouteillages à Rome.
Elle
en
peut plus.
Et Greggio, par contre, souligne que c'est vrai que bon, la chasser un homme indigne à coup de révolution, ça n'a pas trop été le cas en Italie, sauf par exemple lors de l'opération Main Propre dans les années 90, qui a mené à l'arrestation d'une grande partie des membres des classes dirigeantes du pays. C'était une très très grosse opération. Elle dit, je cite, « On peut brièvement rappeler que l'opinion publique se dressa derrière la justice dans une révolte morale inhabituelle pour un pays qui, certes, s'était régulièrement enflammé, mais qui retombait tout aussi régulièrement dans une lassitude fataliste. » Alors, ce qui nous a frappé dans ce livre, c'est aussi et surtout l'implication de l'Église, même au plus haut niveau de criminalité. Mmh. Par exemple, quand on découvre les rouages de Cosa Nostra, je le rappelle d'ailleurs, c'est la mafia sicilienne. Ouais. On s'aperçoit que les mafieux justifient leurs crimes avec une devise. Dieu sait que c'est de leur faute s'ils se sont fait assassiner.
Que c'est clément.
C'est une justification d'ailleurs qu'on retrouve dans un documentaire que j'ai vu il y a peu, que nous avons vu il y a peu, mm-hmm. qui s'appelle Corleone, le parrain des parrains, qui est de Mosco Levi Bucco, et qui est d'ailleurs disponible encore sur Arte jusqu'à la fin du mois d'octobre, et qu'on vous recommande vivement parce que c'est passionnant et très parlant.
Arte.tv.
Voilà, allez-y. Toujours.
Trop bien.
Et donc, dans le documentaire, ils reprennent ce que dit Greggio sur cette justification-là de prendre Dieu comme excuse. D'ailleurs, on peut presque parler en fait d'endoctrinement, puisqu'en fait, les mafieux sont persuadés d'œuvrer pour le bien de la communauté. Ils trouvent leur justification de leur crime auprès de la religion. Mm-hmm. L'un d'eux, qui est donc un repenti qui témoigne dans le documentaire, dit qu'après un meurtre, il avait l'habitude d'aller à l'église pour se confesser et puis il sentait mieux. Donc, en fait, ça démontre aussi l'importance de l'église dans ces sphères-là, mm-hmm. et de voir comment elle est érigée en excuse assez systématiquement. Et puis, ça dérive aussi de l'importance qu'a l'église aussi en Italie.
Oui, bien sûr. Mais en fait, en Italie, bon, pas que, mais en Italie principalement, elle a un poids politique, culturel, social. Pour parler des femmes, car sans surprise, c'est un sujet qui nous intéresse. l'avortement est en Italie un sujet de controverse, vraiment.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile en fait de trouver un médecin qui accepte de pratiquer l'IVG. Il y a beaucoup de médecins qui invoquent l'objection de conscience. Ouais. Dans certaines régions, ça peut aller jusqu'à 80% des médecins. C'est impossible de se faire avorter dans les temps.
Oui, tout à fait.
Il y a de moins en moins de moyens, évidemment, pour les cliniques qu'ils pratiquent. Et l'influence de l'Église est absolument évidente. Le pape François comparait l'IVG à un tueur à gages en octobre 2018. Ouais. Dans Les Nouveaux Monstres, donc, Simonetta Greggio cite un exemple, celui d'Eluana Anglaro, qui est une femme tombée dans un état végétatif suite à un accident de voiture. Son père demande l'arrêt des soins, parce que lui connaît l'avis tranchée de sa fille sur la question. L'Église s'oppose farouchement à cette décision.
Sans surprise, bien sûr.
Et Berlusconi, pour le coup, intervient en la faveur de l'Église, de cette dernière. Il dit « Il ne faut pas débrancher Eluana, car elle pourrait encore tomber enceinte, être mère. »
T'as ri un peu, je l'ai entendu.
Ouais, pardon.
c'est ça, c'était
nerveux. Que vaut le corps d'une femme quand on considère sa possibilité de reproduction quand il n'y a déjà plus de vie ?
Voilà.
Je vous le demande.
Ouais. Question ouverte. Et alors, dans ce livre, voilà, vous venez de l'écouter, il y a beaucoup d'anecdotes diverses et variées, et il y a aussi beaucoup de personnages qui sont certains réels et d'autres fictifs. Et en fait, au cours de ses enquêtes, donc, Aria est amenée à rencontrer Letizia Battaglia, qui, elle, existe vraiment. C'est l'une des premières photojournalistes femmes d'Italie. Elle est sicilienne, elle est née à Palerme en 1935, et elle a passé sa vie, en fait, à documenter la vie en Sicile à travers ses habitants, et bien sûr, Cosa Nostra et ses implications dans la ville et la province. Alors on est très heureuse de pouvoir parler de Letizia Battaglia parce que si vous ne la connaissez pas, c'est une femme qui mérite qu'on parle de son travail et qu'on éclaire sa carrière aussi. D'ailleurs, elle apparaît toujours dans le documentaire dont on parlait plus tôt, qui est donc Corleone, le parrain des parrains.
Ouais. Et du coup, Letizia Battaglia, déjà c'est une femme et dans l'histoire de la mafia des femmes, bah, il y en a peu, voire pas. Pour résumer son parcours, en gros, tout fraîchement divorcée d'un homme qu'elle avait épousé à 15 ans, à presque 40 ans, et donc à un âge où la société attendait plutôt d'elle qu'elle soit une bonne mère et une bonne épouse, elle se fait engager par Laura, qui est un quotidien de Palerme antifasciste, antiraciste, antimafieux, en tant que photojournaliste. Elle précise que c'était capital pour elle de travailler pour un journal avec ces idées politiques-là, pour respecter ses envies de justice, car elle ne supportait pas la violence de la mafia. Mais tout de suite, c'est la ville, donc Palerme, qui devient le cœur de son travail. Elle brave des milieux très masculins et parfois très violents. Elle photographie le quotidien, les rues, les regards, et aussi, j'ai envie de dire presque surtout, la pauvreté et les destins gangrénés par une mafia grandissante dans ces années 70-80. Qui correspondent en fait à l'ascension de Totorina, qui est donc le parrain des parrains en Sicile. Je te laisse le dire en italien.
Capo dei capi.
Voilà, merci.
et d'ailleurs, dans le livre, Simonetta Greggio lui prête ses mots pour s'exprimer à propos des mafieux. Je les ai tous photographiés, c'est vrai, mais pas seulement. Vous oubliez les femmes, les enfants. J'ai presque toujours vécu ici, dans cette ville mafia, qui est aussi un endroit fabuleux, rempli d'histoires, de légendes, un berceau. Ne l'oubliez pas. Cette citation, elle est importante parce qu'en fait, elle démontre son engagement en fait, contre le système mafia en Sicile, puisque parallèlement à ça, elle a aussi tenu à montrer les femmes de son pays, elles qui sont si invisibles dans les milieux mafieux. Par ailleurs, dans un interview, elle montre aussi que c'est une manière d'exorciser l'obsession qu'elle avait justement pour la mafia et ses horreurs, et son envie aussi d'aller plus loin, en fait, de s'engager, de montrer que la Sicile, c'est pas que la mafia aussi, c'est aussi ses habitants qui peuvent en souffrir, certes, mais il y a d'autres choses à montrer. Et dans son parcours, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle n'a pas juste été donc le témoin de cette époque, de la violence de cette époque, elle s'est aussi engagée politiquement, d'ailleurs, pour y mettre un terme. Elle a notamment fait voter des lois contre la mainmise de la mafia à Palerme, en s'engageant auprès de la municipalité.
Ouais. Mais aujourd'hui, en gros, c'est une femme de 85 ans. Elle a créé une maison d'édition, la Battaglia Edizioni. Elle a dirigé une revue féminine. Elle a consacré énormément de temps à l'ouverture d'un centre de la photographie à Palerme, qui a ouvert en 2017 et qui œuvre, pour le coup, ce sont ses propres mots, à faire éclore des talents et à les cultiver. Et elle arbore toujours un carré roux très reconnaissable que ses photos en noir et blanc ont souvent camouflé. Elle est considérée comme une maîtresse du photojournalisme et on organise sur elle des expositions honorifiques comme cet été à Venise. Ouais. Et il y a quelques mois, un très gros livre est sorti sur elle en Italie. Je t'en prie, dis-le.
C'est une anthologie et ça s'appelle Letizia Battaglia, Fotografia come scelta di vita. La photographie comme un choix de vie. Et d'ailleurs, je crois aussi qu'elle elle a tourné un documentaire toujours sur la mafia, mais l'état de la mafia actuelle. Et qui, j'espère, sortir en France, mais on mettra le lien ouais, des infos si jamais ça intéresse ceux qui parlent italien.
Alors, deuxième livre de notre sélection, Tous sauf moi, un roman publié chez Gallimard cette année et qui n'est pas tant éloigné des problématiques exposées dans Les Nouveaux Monstres, dans le sens où c'est un livre qu'on pourrait nommer de politique dans ce qu'il dénonce. C'est le dernier roman en date de l'ancienne scénariste et réalisatrice de documentaires Francesca Melandri, qui est née à Rome dans les années 60.
Oui. Et donc, Tout sauf moi démarre en fait avec le personnage d'Ilaria, qui en rentrant chez elle, le trouve sur son palier un jeune homme éthiopien. On est en 2010, lui s'appelle Chimeta, il a traversé l'Éthiopie, la Libye, la Méditerranée, pour enfin arriver à Rome, et il lui dit qu'il est son neveu. Et en fait, il est à la recherche de son grand-père, qui est le père d'Ilaria, qui a eu un enfant avec une femme, qui s'appelle Abeba, lors de l'occupation de l'Éthiopie par l'Italie de Mussolini, qui a eu lieu de 36 à 41. Donc c'est une révélation qui bouleverse Ilaria, qui décide du coup d'enquêter sur le passé de son père, puisqu'elle ignorait sa venue en Éthiopie, qui a 95 ans du coup au moment de cette rencontre. Et ce qu'elle découvre en fait va la bouleverser, elle va se heurter au passé meurtrier et fasciste de son père. Mmh. Elle qui est d'ailleurs est professeure en collège, qui se définit comme progressiste et ouvertement contre la politique de Berlusconi, donc tout à fait à l'opposé de ces idées-là. Le récit de son enquête à elle est donc mis en miroir avec l'histoire donc, d'Attilio Profeti, qui est le père. On découvre un homme bigame, fasciste, corrompu, un portrait qui n'est pas reluisant. Il a été donc chemise noire et a participé donc, à l'invasion de l'Éthiopie dans les années 30. Il a participé à l'écriture d'essais racistes. Il a eu une aventure avec une Éthiopienne avant de l'abandonner, elle et son enfant à venir.
Un homme brillant.
Un homme comme on a envie d'en rencontrer plus souvent. Et à la suite de ça, il est revenu en Italie, donc où il a fait fortune grâce au pot de vin et au dessous de table dans une entreprise lambda. Donc on a encore plus envie de le rencontrer. À travers son itinéraire, on découvre en fait les actions de l'Italie en Éthiopie dans ces années-là, puis aussi dans les années 80, quand il revient en Éthiopie. On ne vous raconte pas tout. Dans ce livre, il y a toute une partie d'événements en Éthiopie qui sont donc relatés par Francesca Melandri, qui sont d'un racisme et d'un sexisme insupportables. Ça fait froid dans le dos pour certains passages.
Beaucoup.
Les populations, enfin, ce qu'on soupçonne déjà, mais c'est quand même très très documenté, très détaillé. Ouais. Les populations locales sont exploitées, pillées, massacrées. Les femmes, encore une fois, sont la cible privilégiée des envahisseurs. Mm-hmm. On témoigne d'ailleurs l'histoire de Chimeta, qui est donc un descendant de l'union, entre guillemets, bien sûr, entre un Italien et une Éthiopienne. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, il est inconcevable de parler d'égalité dans ce contexte de colonisation, tant le corps des femmes des populations colonisées était considéré en fait comme un dû par les colonisateurs. Et c'est cette relation-là le montre très bien.
Oui, oui. Et Tous sauf moi, en fait, aborde de manière hyper frontale des questions importantes de l'Italie contemporaine, des questions pour le coup complètement honteuses, les restes de la colonisation, bien sûr, un héritage que l'Italie, mais que l'Europe, a du mal à regarder en face, le racisme, la manière très contestable que l'État a d'accueillir les migrants venus d'Afrique, la paperasse qu'on impose aux hommes qui arrivent, la réalité des passeurs, etc.
Ouais.
Comme c'est souvent le cas, Francesca Melandri a écrit une petite histoire pour conter la grande, celle méconnue de l'Éthiopie, celle de la corruption, celle de cette grande graine, encore une fois, qui se propage, qu'on le veuille ou non.
Oui, tout à fait. Et certains passages sont d'une crudité inouïe, notamment ceux qui concernent la période en Éthiopie. Et c'est intolérable de lire des choses pareilles, et en même temps, ça montre l'absolue nécessité de les écrire.
C'est très important de les entendre. Ouais.
Tout à fait. Mmh. Et c'est là qu'on réalise en fait que Tous sauf moi, au-delà du fait que c'est un livre très très bien construit, qui est passionnant, très romanesque. C'est indispensable en fait, pour opérer un vrai travail de mémoire. Selon moi, le livre se fait la voix en fait, de milliers de personnes qui en ont été privées et qui en sont encore aujourd'hui privées. Voilà, la colonisation, sa conséquence, les migrations. Mmh.
C'est ce que Francisco Malandri fait aussi en donnant la parole à Chimeta, qui raconte son périple, et pour le coup c'est un euphémisme, de l'Éthiopie à l'Italie, en passant par la Libye. Enfin, il y a toute une partie où il est emprisonné en Libye, où il n'a même pas de place pour s'allonger, pour dormir. Enfin bref, toutes ces réalités-là qui sont terribles. Mais voilà, c'est salutaire en fait de retrouver ce genre d'histoire dans des récits. On a profondément besoin d'avoir accès au point de vue, à l'histoire intime. Car même si c'est de la fiction, c'est romancé, ça peut être arrivé à n'importe qui, en fait, qui débarque à Lampedusa. Mmh. Voilà. C'est important d'entendre ces voix-là. Mmh. Elle interroge le racisme qui peut régner en Italie. On pense à la manière hyper sceptique qu'a le petit frère d'Ilaria d'accueillir le récit de Chimeta. Il remet tout en question, il ne croit rien. Francesca Melandri fait même plus, en fait, parce qu'elle confronte le pays d'accueil, l'Italie, à sa responsabilité dans l'état d'un pays qu'elle a meurtri et exploité, même après la tentative de colonisation.
Tout à fait. Et en faisant ça, en fait, elle prend le rôle d'historien, puisqu'elle contre un discours dominant qui occulte consciemment ce genre d'événement. On n'en parle pas du tout, en fait, de ça en Italie. Elle le dit elle-même, elle explique que les médias ne font jamais le lien entre les bateaux de migrants et la colonisation. Et c'est ce regard asymétrique, en fait, qui constitue la trame de Tous sauf moi. Parce qu'en fait, même si la période de l'Italie coloniale est certes étudiée à l'école, ni le cinéma, ni la littérature ne s'y sont intéressés. Mmh. Et c'est intéressant aussi de noter que c'est un pan de l'histoire italienne que se sont réappropriées les femmes, plutôt des historiennes et des romancières en Italie, qui font, par ailleurs, le lien entre sexisme et racisme dans les colonies. Mmh. Les travaux de ces historiennes ont donc inspiré Francesca Melandri pour l'écriture de ce texte. Et on découvre notamment, d'ailleurs si on ne le savait pas déjà, comment par exemple la dictature de Mussolini a pu utiliser le corps des femmes des pays à coloniser, entre guillemets, comme propagande de guerre. On s'aperçoit qu'il, par exemple, il distribuait des cartes postales érotico-racistes, je dirais, aux jeunes Italiens, par exemple dans les bordels, mais aussi ailleurs, pour en fait les attirer vers les pays à coloniser, donc utilisation du corps des femmes pour cet objectif, quoi. Donc en fait, Melandri comme Greggio, finalement, fait un travail de mémoire, comme on disait, c'est-à-dire que chacune donne une idée de ce qu'a pu être l'Italie à une période donnée. Ce qui nous invite maintenant à aborder le troisième livre de notre sélection, qui n'a cette fois plus rien de politique, ou presque plus rien. Il s'agit du dernier roman de Goliardia Sapienza, qui s'appelle donc Rendez-vous à Positano. Alors peut-être commencer par dire deux mots sur l'autrice, qui déjà à elle seule est intéressante. Elle est née en 1924 en Sicile, donc en pleine période fasciste, où elle grandit dans une famille recomposée, avec des parents qui ne sont pas mariés, qui sont tous les deux engagés auprès de causes socialistes de l'époque. Son frère a été... Ils sont tellement engagés d'ailleurs qu'en fait, son frère a été vraisemblablement noyé par des fascistes au large de Catane, avant même que Goliarda naisse. Lui s'appelait Goliardo, ils l'ont appelé Goliarda. Devenue adulte, Sapienza, en fait, elle a tout de l'artiste. Elle est comédienne, musicienne, elle a joué avec Visconti. Un jour, elle abandonne la scène pour ce qu'elle considère comme le réel amour de sa vie, qui est la littérature. Elle a un parcours assez houleux, puisque après deux tentatives de suicide, des séjours en prison, en fait, elle se révèle comme un personnage très étonnant, psychologiquement instable, mais fabuleusement intelligente. Elle a été d'ailleurs l'autrice d'un livre qui s'appelle L'art de la joie, qui est visiblement très recommandable. Mmh.
Ouais. Elle est l'exemple type de ces artistes qui connaissent une gloire posthume. L'art de la joie, donc, son roman le plus populaire, n'est redécouvert qu'après sa parution française, après sa mort. De son vivant, le manuscrit aura été refusé par toutes les maisons d'édition, et pourtant, même le président de la République de l'époque aura tenté de faire pencher la balance en sa faveur, sans réussite. Rendez-vous à Positano est un livre comme un hommage à Positano, jadis petit village sur la côte amalfitaine devenu aujourd'hui attraction touristique. Elle en parle d'ailleurs de ce changement en cours, la route de la côte qui sera bientôt terminée et qui apportera avec elle son lot de touristes brisant le silence de leurs étés intimes. Nous sommes à la fin des années 60. C'est aussi un hommage à une femme, la princesse, une femme mystérieuse que personne ne connaît vraiment, mais dont Goliarda deviendra une des plus proches amies, une confidente, presque une sœur. Parfois, c'est à la limite de l'amour. Le livre débute le jour de leur rencontre et se prolonge jusqu'à la mort de cette femme qui finit par perdre un petit peu de son mystère. On apprend en même temps que Sapienza à la connaître, à connaître cette Italie aristocratique dont elle fait partie. Elles vivent au cours de ces décennies des discussions, beaucoup de baignades, une sorte d'amour-amitié calme, sensuel, empreinte d'une nostalgie propre aux étés qui prennent fin, aux plages qui se vident quand l'automne revient. Cette légère stabilité se verra fragilisée par l'arrivée inopinée d'un homme dans la vie d'Erika, mais y a-t-il de la place pour trois dans une relation aussi exclusive ?
Et le personnage d'Erika, donc dite la princesse, moi je me suis demandé si on pouvait pas y voir une allégorie en fait de l'Italie d'une certaine classe, donc comme tu disais, la classe aristocratique qui était encore un peu présente à l'époque, c'est cette image-là d'une aristocratie en fait qui est du coup ruinée, déchue, mais qui retombe quand même un peu sur ses pattes, qui arrive à faire face à un certain réalisme tout en conservant un amour pour les valeurs antiques qu'elle représente. Oui. Moi, au passage, ça m'a fait penser à La Grande Bellezza, qui est un film de Paolo Sorrentino, qui est un film magnifique que j'adore. Lui, c'est le réalisateur des films qui sont Les Conseguenze della Mort et This Must Be the Place ou Youth. Le film, en fait, nous raconte un extrait de la vie de Jep Gambardella, qui est le superbe Tony Servillo, et un écrivain en mal d'inspiration. En fait, il côtoie les plus riches de Rome, les aristos, les artistes, les oisifs. Leur vie est complètement béante. Lui, il les rejoint puisqu'en fait, il n'a écrit qu'un seul roman qui lui a valu la reconnaissance du public, la reconnaissance des critiques et qui lui a valu une fortune à vie. Mais il s'interroge en fait sur ce vide qui peuple son quotidien et finalement, il décide qu'il doit se remettre à écrire. Bon, bref, toutes les images dans ce film sont magnifiques. Elles sont vibrantes de beauté et d'émotion. Les acteurs sont géniaux. D'ailleurs, il y a Tony Servillo qui est magnifique en Soixantenaire désabusé. Simonetta Greggio aussi en parle à la fin du livre Les Nouveaux Monstres, justement. Bref, donc en fait, ce film nous montre cette aristocratie ruinée qui ne se résigne pas finalement à sa propre déchéance en faisant la fête en permanence. Certains même se louent, ils monnaient leurs apparitions à des soirées, ils habitent des palais vides. Qu'ils conservent comme des espèces de mausolées de leur splendeur d'avant.
Il y a une scène dans ce film où, autour d'une piscine, tout au début, il y a une piscine avec plein de nanas partout, la lumière, fête, du champagne, ouais. C'est incroyable, ouais. Incroyable.
Et pour moi, j'y vois une espèce de morale, c'est-à-dire en Italie, personne n'échappe à la chute. Les pauvres sont pauvres, le reste le deviennent encore plus. Et les riches sont déchus, sont appauvris. Et est-ce qu'ils seront un jour sauvés par l'amour des belles choses ? Moi, c'est à cette vision fantasmée à l'italienne que je pense quand je lis justement Rendez-vous à Positano.
Et on parle là de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60. C'est l'époque de la reconstruction de l'Italie, de sa marche forcée vers la modernité, après des années de fascisme et puis de guerre. Positano semble un peu y échapper. On est dans un endroit reculé du sud de l'Italie. C'est pas rien, c'est un endroit très très pauvre en fait, très très reculé. Positano, c'est un écrin dans lequel le temps s'est arrêté, dans lequel Goyarda semble trouver un espèce de refuge. Elle évoque un moment le réalisme socialiste qui, jusqu'à sa rencontre avec Erika et la première nuit passée chez elle, l'empêche de profiter pleinement de Positano et de sa vie de carte postale. Parce que je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble Positano, mais c'est...
Moi, je n'y suis pas allée. C'est toi.
Oui, j'y suis allée cet été. C'est un village construit tout en couleurs sur le flanc d'une montagne avec la mer turquoise, oui. À perte de vue, c'est hallucinant de beauté.
Oui, c'est ça, en fait, tout est beau, tout est rêverie, c'est sublime. Dolce vita. Et d'ailleurs, Erika est une femme qui incarne tout ceci à merveille. Et en fait, c'est un livre qui donne une image assez nostalgique de ces années-là, une image loin de la guerre, loin du fascisme.
On passe au dernier livre de notre sélection, qui est un roman nettement plus récent et d'ailleurs tout à fait contemporain. Il s'appelle La vie parfaite. Il est sorti en 2017. C'est un livre où l'urbanisation est au cœur des relations sociales et intimes. Il a été écrit par Silvia Avallone, qui a 35 ans, qui est écrivaine et poétesse italienne. Elle est née à Biella, dans le Piémont, qui est une petite ville au nord de l'Italie, entre Turin et Milan. De ces petites régions vertes qui ressemblent à la Suisse. Elle déménage jeune adulte à Bologne, elle y fait ses études, elle s'y marie, elle y vit toujours aujourd'hui. Son premier roman, D'acier, publié en 2010, lui vaut d'emblée une reconnaissance et lui fait remporter le prix Campiello Opera Prima. Déjà dans ce premier livre, l'architecture tient une place capitale. C'est l'histoire de deux gamins qui viennent d'une cité de Toscane, une barre d'immeubles où les espoirs meurent aussi vite qu'ils naissent. Et ces deux gamins tentent de s'en sortir.
Avec La vie parfaite, qui est donc son troisième roman, elle situe son histoire à Bologne, qui est une ville bouillante de culture, une des plus grandes villes étudiantes d'Italie, et une des villes les plus à gauche de l'Italie. Elle doit d'ailleurs son surnom, La Rouge, à ses briques rouges qui sont utilisées pour sa construction, en partie, mais aussi en partie pour son passé communiste. Donc Bologne est le théâtre de ce roman. Il est le témoin de la rage de ses personnages, de leur désespoir, de leur chute et de leurs espoirs. L'histoire, en deux mots, c'est donc Adèle, qui est amoureuse depuis l'enfance de Manuel, qui est en fait un bad boy, comme on en trouve tant dans les cités, en Italie et ailleurs. Ils vivent, ou plutôt survivent, dans le quartier des Lombriconi, qui est une cité, d'ailleurs imaginaire, mais une cité en périphérie de Bologne. Adèle tombe enceinte et se retrouve seule, puisque Manuel en fait, l'abandonne pour se consacrer à sa carrière de dealer. Et en fait, ce sont que des gamins sans repère qui évoluent dans une jungle urbaine, qui ont une vie sociale très violente et dont les décisions en fait, peuvent changer toute une vie, puisqu'en fait, elle se demande si elle va garder l'enfant ou pas. En parallèle, on a le couple Dora et Fabio. Elle est professeure en lycée, lui, il est architecte. Et en fait, ils cherchent tous les deux, désespérément et inlassablement, à avoir un enfant. Et en fait, on suit leurs relations et leurs obstacles dans leur parcours pour fonder une famille.
Ouais. Et La vie parfaite décrit une jeunesse désabusée, celle qui grandit dans la banlieue de la grande ville, qui ne fréquente jamais, je cite, les bars à touristes de la Piazza Maggiore, qui coûte la peau des fesses. Cette jeunesse-là se perd dans les tours sordides où s'entasse la population pauvre et sans avenir, de l'ado qui tombe enceinte à peine majeure, comme tu le dis, au gamin brillant qui se perd dans les trafics qui rapportent plus que lire des bouquins.
Oui, et aller à l'école.
C'est ça. Mais pour le coup, le roman pose des questions sur l'effet de l'environnement sur le destin des gens. Peut-on grandir et vivre de la même manière selon le lieu où l'on grandit ? Non, évidemment. Les tours de la banlieue prédéfinissent une misère sociale, économique, sentimentale, comme si le bonheur tout à coup devenait impossible. Et d'elle, la gamine, elle parle souvent de l'appartement où elle a grandi quand elle était gosse, qui était assez loin de la banlieue et un appartement beaucoup plus chic, beaucoup plus central dans Bologne. Et elle regarde en fait le balcon qui était le sien quand elle était gamine et ça lui permet de retrouver un espèce de sentiment de chaleur, un espèce de souvenir de bonheur, comme si le jour où elle a emménagé dans la tour a été le déclencheur de sa décadence et de celle de sa famille.
Ouais, tout à fait. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'était que cet environnement dans lequel les personnages évoluent, la misère y est telle que il y a surtout un manque de modèle en fait pour ces filles qui grandissent donc au pied des tours. Et il y a tellement peu de modèles qu'en fait l'une d'elles, enfin Adèle, on a l'impression qu'elle décide de tomber enceinte presque pour garder ce garçon de qui elle est amoureuse, parce qu'en fait on sent que inconsciemment, c'est ce qui lui permettrait en fait de se lier à cet homme. Et en fait, là, elle se préoccupe de sa survie à elle, mais d'un point de vue de jeune femme, c'est-à-dire que selon elle, sa survie tient à un homme. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser à une jeune fille qui témoignait dans un autre documentaire d'ailleurs, qui s'appelle Selfie, avoir 16 ans à Naples, qui est un très beau documentaire réalisé par Agostino Ferrente et justement diffusé il y a peu sur Arte aussi. Ce docu, il a deux personnages, Pietro et Alessandro, qui sont d'un quartier populaire du Traiano à Naples. Et en fait, le réalisateur leur a donné un téléphone portable pour qu'ils puissent se filmer en selfie et qu'ils puissent raconter leur vie au quartier, dans ce quartier qui est extrêmement violent. Ça donne un résultat magnifique, puisqu'en fait, on découvre deux garçons qui sont très lucides en fait, sur leur quotidien, leur situation. Et malgré tout, on sent qu'ils ont de grandes espérances, qu'ils essayent de s'en sortir malgré tout et de éventuellement sortir de ce quartier. Dans ce docu, il y a aussi des sessions de casting en fait, que le réalisateur a fait passer aux habitants de ce quartier-là. Et donc, on retrouve une gamine là-dedans qui passe ce casting. Elle a à peu près 15 ans, elle est très belle, elle a des manières d'ado qui veut passer à la télé. Et en fait, elle raconte que dans ce quartier qu'elle voudrait quitter, elle se sent malgré tout condamnée à y rester. Et surtout, elle, en tant que femme, elle déclare qu'en fait, son objectif, c'est surtout de trouver un homme qui puisse l'aimer et qu'elle aime en retour, et un homme avec qui se caser, quoi, tout simplement. Et elle parle d'ailleurs que, par exemple, si cet homme devait aller en prison, elle serait obligée, par exemple, de l'attendre. Que, en fait, c'est ce genre de perspective qu'elle s'était construite dans ce quartier-là et qui lui vient comme une évidence. Et moi, j'y ai vu un miroir avec le personnage d'Adèle, justement.
La différence sociale est au cœur du roman, pour le coup. La ville est séparée en deux. Il y a le centre-ville, la Piazza Maggiore, où il y a le lycée Galvani et la bibliothèque Zambeccari.
Je sais pas
comment ça se dit. Où Pasolini a étudié. Et à l'extérieur de la ville, donc, à 50 minutes du centre-ville en prenant le bus, il y a les tours, elles sont toutes semblables, pleines d'humidité et de familles désespérément pauvres et rejetées. C'est un quartier qui n'existe pas dans la vraie vie, tu l'as dit. Il a été imaginé par l'autrice, mais on n'a aucun mal à le visualiser. Aussi, sans doute, parce que nous, notre banlieue parisienne, elle regorge de bâtiments architecturaux un peu douteux de ce genre-là. Des tours faites de béton, des cages d'escalier un peu dégueulasses dont l'ouverture automatique ne marche plus depuis le jour même de leur installation. Chez les miséreux, une gamine tombe enceinte sans l'avoir désirée. Et chez les riches, une femme serait prête à dépenser des sommes astronomiques pour avoir le ventre rond.
Oui, finalement, c'est une histoire qui pourrait se dérouler dans n'importe quel quartier, je dirais défavorisé, de n'importe quelle ville, de n'importe quel pays.
Bien sûr.
Ce qui la situe réellement en Italie, moi c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans le bouquin, c'est les références populaires et très contemporaines à l'Italie d'aujourd'hui. Manuel se réfère à des stars du rap italien qui l'érige comme modèle, la bonne idée, comme Fabri Fibra et Marrakech. Je laisse les connaisseurs savoir de quoi je parle. La télé est omniprésente aussi dans les références culturelles, les talk shows, les émissions de télé-réalité. Internet aussi, mais dans une moindre mesure. Par exemple, une des amies lance une chaîne YouTube pour relater son quotidien qu'elle maquille en paillettes et strass.
Ouais.
Bref, ces références populaires sont opposées à celles d'un autre personnage qui est un des jeunes amis d'Adèle, qui lui, par contre, va au lycée classique et a une perspective beaucoup plus ouverte que tous les autres personnages.
Elle le trouve hyper intelligent, du coup.
Voilà,
c'est
la tête de la bande.
La tête pensante.
Et lui, d'ailleurs, il préfère donc citer Dostoïevski et d'autres auteurs classiques et russes et français plutôt que de se référer à des émissions de télé-réalité. Intéressant aussi le dialecte et l'argot. Qui marque l'appartenance à une certaine classe sociale. La mère d'Adèle, par exemple, je crois qu'elle est originaire de Naples.
Ouais.
Et elle parle napolitain, en fait, quand elle s'énerve. Et c'est quelque chose que fait ressortir l'autrice. Mmh. Et en fait, ça marque aussi une différence entre Sud et Nord. Puisqu'en Italie, bon, y a aussi un gros clivage, en fait, entre ceux qui viennent du Sud et ceux qui viennent du Nord. Certains étant considérés comme plus privilégiés que d'autres. Voilà, et puis finalement, tu as aussi une action qui se déroule à Bologne, qui est donc, comme on le disait, une des plus anciennes universités d'Italie, qui est un pôle de recherche et de connaissances. Et ça donne un contraste encore plus fort, en fait, avec la vie d'Adèle et de sa petite sœur et de ses amis, qui peuvent, eux, pas accéder à ce savoir. Bon, on va vous l'avouer, on n'a pas du tout envie de finir cet épisode. Difficile de clore ce chapitre, effectivement, alors qu'il parle précisément d'un pays qui nous tient, l'une et l'autre, très à cœur. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, mais nos patronymes parlent d'eux-mêmes. Comme tant d'autres personnes dans le monde, nous sommes liés à ce pays, de près ou de loin, par la diaspora de sa population, qui a eu lieu d'ailleurs à différents moments de l'histoire. En fait, il est intéressant de voir ce que peut faire la littérature à un pays, à l'idée qu'on s'en fait, qu'on y vive ou qu'on l'observe de loin. Nous, notre objectif, en convoquant les récits de ces autrices, c'était d'avoir un regard qui va au-delà de ce qu'on peut capter de photos de vacances ou de vieilles photos de famille, qui va au-delà des histoires qui peuvent se transmettre, par exemple, de génération en génération. Ça nous a permis aussi d'avoir un regard très actuel sur ce pays, qui nous est raconté, du coup, le plus souvent avec les lunettes de la nostalgie et du passé.
Parce que finalement, nous, on a nos histoires de famille qui se transmettent sous différentes formes. Mais la réalité, c'est qu'elles sont parfois fantasmées, ces histoires, parfois incomplètes aussi. Comme quand, par exemple, nos grands-pères, qui sont arrivés en France, se sont interdits de parler italien, même en famille. Ce qui fait que certains pans de culture sont restés secrets et n'ont pas été transmis. Moi, je ne parle pas italien, par exemple, alors que je porte un nom de famille d'italien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cet épisode, il nous a permis d'ouvrir une porte qui, pour l'instant, nous était restée fermée, celle d'une littérature venue d'Italie, pensée et faite par des femmes. parce que dans nos familles aussi, il y en avait des femmes. Simonetta Greggio, Francesca Melandri, Silvia Valone et Golerla Sapienza, tout à leur manière, nous ont laissé apercevoir une histoire et une réalité de ce pays que nous ne connaissions pas, loin des clichés et loin des souvenirs véhiculés par notre propre histoire familiale. Je ne vais pas vous le cacher, ça a fait un bien fou.
Absolument. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde, en dépit des miaulements de notre premier assistant et de mon rhume. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage, et merci à Théophile Denis pour la musique. Bien évidemment, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast.
À très vite. Tu peux le dire en italien.
Ciao a tutti.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.